Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront en langue. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Il est s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Peut-être sommes-nous un peu mal à l'aise avec cette fête de l'Ascension, parce que nous ne savons pas très bien comment l'appréhender, comment nous la représenter. On nous dit que Jésus a disparu au ciel, s'est élevé devant les apôtres, et cette représentation spatiale nous fait sourire quelque part, peut-être. Des enfants au catéchisme ou des enfants plus jeunes vont dire « Tiens, il s'est envolé ». Et joli mot d'enfant. Et il nous faut peut-être trouver effectivement une compréhension adulte de ce mystère. Il y a un premier indice qui est contenu dans l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine dans l'Évangile selon saint Jean, le jour même de Pâques, où Marie-Madeleine veut se prosterner devant Jésus et lui saisir les pieds comme les femmes palestiniennes pouvaient le faire à l'époque. Et Jésus lui dit « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. » Je ne suis pas encore monté vers le Père, je monte vers mon Père et votre Père. Curieuse affirmation, mais qui nous fait comprendre que dans le mystère pascal, il y a comme des étapes et que la résurrection de Jésus est une étape importante, mais que l'ascension, c'est-à-dire son exaltation, je monte vers mon Père et votre Père, est aussi une autre étape. Et que peut-être pour nous sur terre, il y a une distanciation temporelle, il y a un espace de temps, comme Jésus l'exprime à Marie-Madeleine. Mais voilà, il y a comme des étapes, et l'étape ultime peut-être, en tout cas importante, c'est l'exaltation de Jésus, sa résurrection et son exaltation. Dans les premiers mots que les apôtres ont été amenés à prêcher, ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire au fond le résumé de la foi, donné de façon, j'allais dire, un peu brute, eh bien, les apôtres disent « Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel ». Voilà, il y a cette triple affirmation qui donne l'ensemble du mystère pascal. Saint Augustin, je lisais ça ce matin dans le bréviaire, Saint Augustin dit que nous sommes nous aussi montés avec le Christ au ciel. Il dit nous sommes les membres de son corps. On l'a entendu aussi dans saint Paul, la seconde lecture. Nous sommes comme rattachés au Christ. Il est la tête. Et donc cette fête de l'Ascension est aussi une fête qui nous concerne. J'entendais tout à l'heure avec un petit frémissement dans l'oraison que j'ai dite que nous sommes censés vivre en espérance dans la gloire, n'est-ce pas? Vous avez remarqué dans cette oraison que nous avons dite tout à l'heure, c'est là que nous vivons en espérance, en parlant du ciel, en parlant de la gloire. Je ne suis pas si sûr que ça qu'on vive beaucoup en espérance au ciel, mais en tout cas, voilà, nous sommes invités à contempler Jésus dans la gloire, le premier homme avec son corps glorifié dans la gloire de Dieu, et y voir là aussi l'espérance de notre propre glorification, de notre propre exaltation. Quelque part, cette fête de l'Ascension est la matrice de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie que nous célébrons le 15 août. Quand nous regardons Marie dans son Assomption, nous voyons la première femme glorifiée, ressuscitée, mais qui, elle, est vraiment une créature comme nous, et non pas Jésus, Dieu fait homme, c'est pas la même chose. Et voici que, en contemplant Marie, nous contemplons vraiment notre sœur en humanité qui est glorifiée. Mais voilà, Jésus, c'est aussi notre frère en humanité. Il est Dieu et homme, mais il est exalté et nous contemplons notre propre exaltation. Voilà, c'est un aspect de cette fête de l'Ascension qui est là pour nous fortifier dans la foi. Et puis un autre aspect qui est plus, qui concerne plus notre mission d'Église, c'est au fond la présence de Jésus ressuscité à nos côtés dans la mission. Jésus ne s'est pas absenté, Jésus n'est pas parti, Jésus n'est pas ailleurs. Et c'est là que la représentation temporelle pourrait nous induire en erreur. Jésus n'est pas ailleurs, il est simplement dans l'invisible, mais il n'est pas ailleurs, il est toujours là. Mais il s'est rendu invisible. Et pour nous laisser l'espace de notre acte de foi libre, précisément. Et donc, Jésus travaille avec nous dans la mission. C'est la perspective de la finale de l'Évangile selon saint Marc que nous avons entendu à l'Évangile, où il nous est dit « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà. Souvent, nous sommes dépassés par la tâche d'évangélisation, nous nous sentons impuissants et nous ne regardons pas assez le fait que Jésus est là, présent, avec nous dans la mission de l'Église. Jésus ressuscité par le don de son Esprit. Et donc, il peut produire effectivement un certain nombre d'actes qui nous dépassent, nous, parce que c'est lui, ressuscité, qui les produit. Et dans la finale de l'Évangile selon saint Marc, nous avons entendu précisément Jésus, juste avant son ascension, dire que ceux qui croiront en lui, eh bien, produiront un certain nombre de signes, auront des charismes, ils auront le charisme de libération, ils chasseront les esprits mauvais, ils prieront en langue, ils imposeront les mains aux malades pour des guérisons, ils seront eux-mêmes protégés, s'ils boivent un poison mortel, il n'en fera pas de mal. Jésus est là avec nous et nous équipe d'un certain nombre de dons surnaturels pour la mission. Il faut que nous le croyions cela, c'est très important. Il faut que nous le demandions, il faut que nous le voyions, que nous fassions quelquefois l'inventaire des dons que le Seigneur... Ce n'est pas des dons naturels. Des dons naturels, il y en a aussi plein. Mais ce sont des dons surnaturels, ce sont des charismes du Saint-Esprit. Mais il faut que nous en soyons conscients et que nous demandions au Seigneur de les faire éclore au milieu de nous, de sorte que nous voyions que nous sommes vraiment, en tant que communauté, équipés de façon surnaturelle pour la mission. Les charismes ne proviennent pas de la sainteté de la personne, ce sont des dons qui sont confiés à la communauté à travers une personne, mais à la communauté. Et c'est la communauté que le Christ équipe de dons, d'outils pour la mission, en quelque sorte. Ça ne dépend pas de la sainteté de la personne qui reçoit le don. C'est vraiment le Seigneur qui donne à la communauté à travers une personne. Et il faut que la personne accepte de jouer de son instrument, de se servir de son outil, d'utiliser le charisme et le don qui lui a été donné. Et il faut pour cela qu'elle mette en œuvre sa foi. Parce qu'un don, un don surnaturel, ça suppose toujours de la foi pour l'exercer. Ce n'est pas au terme d'un travail de polissage humain qu'on arrive à s'en servir, c'est vraiment par la foi. Mais voilà, le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans notre mission. Et en terminant, je rappellerai cette parole que Jésus disait et que nous avons entendue dans le récit des Actes des Apôtres. Juste avant son ascension, il leur dit « Ne quittez pas Jérusalem, attendez ce que le Père va vous envoyer, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. » Et donc c'est le baptême dans l'Esprit-Saint, vous allez être plongé dans l'Esprit-Saint. Voilà, c'est véritablement la grâce du chrétien, d'être habité par la présence du Saint-Esprit. Donc Jésus, à ses apôtres, leur dit « Non, 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 ne faites rien tant que vous n'êtes pas vraiment conscient d'être équipé du Saint-Esprit tant que vous n'avez pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Demandez vraiment le Saint-Esprit et alors partez en mission. Mais voyez cette importance-là que nous ayons dans notre vie chrétienne, un culte au Saint-Esprit. Il y a des chrétiens quelquefois qui ont vraiment un culte à des saints, vrai ou faux d'ailleurs, mais enfin Saint Rita, Saint ceci, Saint cela, c'est bien, j'ai rien contre, mais le vrai culte essentiel que nous devons avoir, c'est le culte à Jésus ressuscité et au Saint-Esprit qui nous habite, et demander vraiment à l'Esprit Saint, le prier tous les jours, Esprit Saint, conduis-moi, guide-moi, équipe-moi, fortifie-moi, éclaire-moi, et alors nous pourrons avancer sur des chemins qui seront des chemins de foi, parce que nous y serons assistés par la puissance du Saint-Esprit qui nous habite.